Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, 8e année. La fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, les ressorts du divan.
Bonsoir, merci d'être là pour ce cours consacré à la suite de la pensée magique. Puisque la dernière fois, je vous avais proposé de mettre en perspective les écrits de Marcel Mauss sur la pensée magique et le comportement de Freud, la pensée de Freud, les thèses ou les hypothèses de Freud, puisqu'il est intervenu sur la psychanalyse. Il a dit la psychanalyse, mais il a théorisé aussi ce qu'elle était, ce qu'elle n'était pas, ce qu'elle devait être, comment elle fonctionnait. Et on entrera dans cette séance dans une partie des détails concernant cette question-là. Si vraiment la psychanalyse avait été véritablement une science, eh bien on aurait pu imaginer que quelques moyens auraient été donnés d'en faire la démonstration, de le prouver. Et par exemple, en prenant un rêve, Freud se propose d'analyser des rêves en nous disant la vérité du rêve. Il nous dit que le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Donc c'est quelque chose de lourd, cette interprétation du rêve. On peut donc imaginer qu'à un rêve donné, objectivement donné, raconté par quelqu'un, vous avez rêvé ceci, eh bien vous ayez une interprétation qui soit la même, quel que soit le psychanalyste. C'est-à-dire, quel que soit l'astronome qui regarde dans une lunette, il peut être une catholique, athée, croyant, musulman, homme, femme, grand, beau, moche, vieux, etc., tout ce que vous voudrez, s'il regarde quelque chose dans sa lunette astronomique et qu'il obtient quelque chose, vérité de type astronomique et scientifique, eh bien, ce sera une vérité parce que n'importe qui d'autre pourra constater exactement la même chose avec le même type d'observation. Or, ce que l'on constate, c'est que quand vous avez un rêve, eh bien, ce rêve, il est toujours le reflet de l'inconscient, de celui qui l'interprète. Freud nous dit que le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient du rêveur. On pourrait dire que le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient de l'analyste, de celui qui analyse le rêve de l'autre. Et de fait, si vous prenez des rêves classiques, puisque Freud en a raconté beaucoup, en a rapporté beaucoup dans l'interprétation du rêve, eh bien, il suffit de voir ce que d'autres psychanalystes ont pu raconter, et ils n'ont pas forcément vu des histoires édipiennes, puisque vous le savez, on a démarré l'année avec ça, c'est la grande obsession de Freud. On est donc toujours dans la pensée magique, on est véritablement dans la pensée magique, c'est le magicien, enfin, Marcel Mauss le disait très précisément, la magie c'est l'effet du magicien, c'est une définition un petit peu courte, il faudrait savoir ce qu'est le magicien, et il nous dit que le magicien c'est celui qui est pensé, est perçu, est reconnu comme tel. Donc l'affaire est réglée, vous avez une relation magique qui suppose que vous reconnaissiez au magicien le pouvoir magique et l'affaire est réglée, et vous verrez. En matière de psychanalyse, ça fonctionne comme ça. Il nous le dit très précisément, Freud, et cette citation que je vais vous donner, elle est extraite de l'abrégé de psychanalyse, c'est un petit livre final, terminal. Freud sait qu'il va bientôt mourir, il fait le bilan de ce qu'il a découvert. C'est un texte très dense, extrêmement bien écrit, mais qui fait vraiment le bilan de tout son travail. Donc c'est facile et pas facile à lire, c'est-à-dire que quand vous avez lu l'œuvre complète, c'est d'une limpidité extraordinaire. Mais la densité fait que de temps en temps, on peut croire avoir compris quand on n'a pas forcément compris. Donc ne commencez pas forcément par l'abrégé de psychanalyse, il donne l'impression d'être une synthèse facile d'accès, mais c'est vraiment le travail d'une vie ramassé dans quelques pages. Freud nous dit dans ce livre, les règles de la pensée logique ne jouent pas à l'intérieur de l'inconscient, et l'on peut appeler ce dernier le royaume de l'illogique. Donc on n'est pas du tout dans une logique cartésienne, si tant est que le cartésianisme, ce soit la raison raisonnable et résonante. On n'est pas du tout dans la perspective de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle, avec la croyance qu'il y aurait une raison, la possibilité d'une critique de la raison pure, pour le dire dans le vocabulaire de Kant, et la possibilité d'obtenir une objectivité. Souvenez-vous ce désir qu'avait Freud de faire de son inconscient quelque chose qui serait nouménal, qui renverrait au noumen de Kant. Ce qui serait vraiment l'occasion de l'installer ou d'installer sa discipline du côté de la foi, du côté de la croyance. Il crée en ce sens une langue nouvelle, une méthode nouvelle pour donner une espèce de consistance apparemment rationnelle à ce royaume de l'illogique. C'est un genre d'utopique conceptuelle ou d'atopie mentale ou d'uchronie verbale. C'est une création qui pourrait être littéraire, et pour le coup, on ne lui en voudrait pas, si tant est qu'on puisse lui en vouloir. Mais après tout, il décrit un monde, il fantasme ce monde, comme un peintre pourrait, comme Tanguy par exemple, peigner des paysages qui n'en étaient pas, mais qui étaient quand même des paysages mentaux. Après tout, pourquoi pas décrire des paysages mentaux comme on les perçoit, mais de là à imaginer que ces paysages mentaux qui décrivent une subjectivité soient scientifiques, ou relèvent de la science ou de la scientificité, évidemment, il y a tout un monde. Freud nous dit que l'inconscient, c'est une énigme qu'il s'agit de déchiffrer. Vous savez qu'il est passionné par l'égyptologie, par tout ce qui est ancien, et plus précisément ce qui est égyptien. Et évidemment, la pierre de Rosette est fantastique pour un personnage qui est un déchiffreur d'énigmes, ou qui se voudrait un déchiffreur d'énigmes. Vous avez des hiéroglyphes, on ne les comprend pas. Et puis un jour, vous découvrez une pierre qui vous montre quasiment une espèce de dictionnaire, qui vous propose un dictionnaire qui vous permet d'obtenir des équivalences, et d'un seul coup, vous déchiffrez l'énigme. Et Freud se propose ça, c'est-à-dire le déchiffrage de cette langue particulière qui n'est pas logique. C'est une langue qui aborde un continent qui n'est pas logique et qui n'est pas non plus une langue logique. Ça n'est pas non plus un monde logique. Et on nomme souvent glossolalie une langue qui n'existe que pour celui qui l'invente. Vous avez des individus qui sont capables de fabriquer des langues qui sont vraiment des purs produits de leur fantaisie et de leur imaginaire ou de leur imagination. Et de fait, ces langues-là ne sont pas des occasions de communiquer. On ne communique pas avec une langue qu'on est seul à parler, puisqu'on est le premier à l'inventer, qu'on est le seul et l'unique à la pratiquer. Devant une glossolalie, alors la glossolalie, c'est généralement un effet de pathologie mentale, mais généralement, on peut imaginer qu'après tout, symboliquement, un artiste est dans une logique de glossolalie. Il invente aussi son langage. Simplement, ce langage peut être aussi une occasion de communiquer. On peut communiquer en inventant un langage avec lequel on va pouvoir entrer en relation avec des individus qui seront prêts à l'entendre ou à l'apprendre. Et de fait, la psychanalyse suppose ça. Ça suppose qu'on adhère à une glossolalie. Ça suppose que ce langage particulier, singulier, on en fasse un langage universel. Il y a deux façons de faire devant une glossolalie, devant ce langage de poche ou langage personnel. La première façon, c'est de rire et de démystifier, de faire savoir que le roi est nu et que cette langue ne signifie rien. Puis la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle aussi le psittacisme. Et le psittacisme, ça renvoie par l'étymologie au perroquet, c'est-à-dire c'est celui qui répète. Le psittacisme désigne l'art de répéter des choses qu'on peut même ne pas comprendre. On n'est pas tenu de comprendre Freud pour répéter Freud, ou Hegel pour répéter Hegel, ou Heidegger pour répéter Heidegger, ou Lacan pour répéter Lacan. Vous avez un certain nombre de concepts qui font une langue, qui constituent une langue, et vous pouvez très bien, en agençant dans un désordre absolu ces concepts-là, donner l'impression d'une profondeur. Alors vous aurez ceux qui riront de cette profondeur, parce qu'ils sauront que le roi est nu, puis ceux qui diront « c'est probablement très profond, parce que je ne comprends pas ». La pensée symbolique est l'occasion d'une pensée sectaire, toujours. C'est très facile, vous avez quelqu'un qui parle une langue, si vous dites que cette langue est une langue, et si vous êtes 3, 10 et 15 à parler cette langue-là, alors vous faites un petit groupe. Vous êtes des initiés, les autres ne savent pas. C'est l'occasion d'une secte parce qu'il faut apprendre le vocabulaire, vérifier qu'on a bien appris le vocabulaire, et vérifier qu'on a appris auprès de ceux qui savent. Donc vous avez une espèce d'adoubement, vous êtes obligatoirement dans une position de servitude, de domination. Il faut apprendre la langue qu'on vous demande d'apprendre, même si elle ne signifie rien, faire semblant, croire qu'elle signifie quelque chose. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la soumission du disciple et vous aurez la possibilité de questionner sur le mystère. On vous répondra par un autre mystère. Et puis, vous ajouterez les mystères aux autres, les uns aux autres. Et puis, vous aurez comme ça une espèce de langage, une espèce de discours qui sera susceptible d'être tenu. Et vous aurez, bien sûr, l'assentiment des sectaires, l'assentiment des gens qui constituent ce petit noyau. Vous avez des rituels répétitifs d'incantation verbale, quelques mots, quelques phrases, quelques expressions, quelques clés qui fonctionnent dans pratiquement toutes les serrures. Et quand vous avez appris à jongler avec ces clés-là, il n'y a pas de problème. Si vous maîtrisez les quelques clés freudiennes, le meurtre du père, le désir sexuel de la mère, le fantasme de la castration, la question de l'onanisme et de la masturbation, vous ajoutez comme ça quelques petites choses, l'ordre du père, le meurtre primitif, le banquet cannibale, et il vous suffit de dire, voilà, à chaque fois que vous aurez une question, la réponse, elle se trouvera là. À vous de faire de telle sorte que vous puissiez avoir la malignité qui vous permettra, quelle que soit l'interrogation qu'on vous proposera, de proposer ce type de réponse. Cet arsenal théorique est toujours là pour cacher cette obsession dont nous avons eu l'occasion de voir en début d'année qu'elle était typiquement freudienne. Enfin, quand je dis freudienne, pour le coup, c'est qui renvoie à Freud personnellement, pas qui renvoie au corps de doctrine, encore que. Et Freud nous fait savoir qu'on peut opposer dans le rêve un contenu réel et un contenu manifeste. C'est ce qui justifie en permanence que le réel ne soit jamais le réel et que le réel du rêve importe beaucoup moins que la fiction du rêve, qui pour le coup est la réalité. Vous suivez ? Oui. Hein. Il vous suffira de jouer avec cette articulation, le contenu réel, le contenu manifeste ou le contenu symbolique, et vous aurez la possibilité de dire « écartons le réel », et je vais vous faire voir tout à l'heure comment on s'y prend, et puis soucions-nous du contenu manifeste, du symbolique, et allons-y pour l'interprétation. Le contenu réel n'est jamais à prendre au pied de la lettre. Le contenu réel, nous dit Freud, il utilise des images, il recourt à des images, et le contenu manifeste à des signes. Vous avez vu Michel Onfray arriver dans une fusée, et puis descendre de la fusée en compagnie de Raël, et puis, enfin, et vous vous dites, tout ça ne peut pas être complètement vrai. Non, ça c'est le contenu réel du rêve. Et il faut vous expliquer pourquoi la fusée, pourquoi l'engin spatial, pourquoi lui, pourquoi moi, et ce genre de choses. Là, pour le coup, je ne vous ferai pas d'interprétation, mais ce n'est pas mon genre de m'allonger, mais je vois bien pourquoi j'ai dit ça. Contenu réel, contenu manifeste. Autre production théorique, je dirais, qui rend possible à Freud cette idée qu'on peut déréaliser le réel et matérialiser la fiction, et donner à la fiction la priorité sur le réel, cette idée que le travail du rêve, ce serait toujours condensation, déplacement et présentation. Freud nous dit à chaque fois que vous avez un rêve, vous avez ça, condensation, déplacement, présentation. Condensation, ça veut dire quoi ? Eh bien, vous faites de l'un avec du divers. Vous mélangez un certain nombre de choses. Vous avez des registres très divers dans l'espace, vous avez des registres très divers dans le temps également, c'est-à-dire vous pouvez avoir vécu des choses il y a très longtemps, des choses il y a moins longtemps, des choses quelques heures avant, et bien toutes ces choses très diverses, elles vont se trouver condensées. Vous aurez un travail identique, alors la condensation, nous dit Freud, ça suppose toujours un contenu pauvre et laconique. De fait, quand vous rêvez, vous avez toujours deux ou trois petites choses à dire sur ce rêve, mais ça ne va pas très loin. C'est-à-dire que vous avez quelques images, quelques propositions d'images, vous faites deux ou trois phrases, et puis vous aurez la totalité de votre rêve, du contenu réel de votre propre rêve. Le déplacement suppose que ce qui aura eu lieu ici sera déplacé ailleurs. Vous avez une translation du matériau du rêve qui fait que peut-être ce que vous aurez vécu concrètement dans une situation particulière et qui aura été connoté affectivement d'une manière particulière, positive ou négative, plaisante ou déplaisante, eh bien, à partir du déplacement, vous aurez peut-être une disparition du support de vos sensations, de vos émotions, et vous aurez un maintien de votre sensation ou de vos émotions. Donc le déplacement, il suppose des changements de perspective. Et puis la présentation suppose que l'inconscient présentifie quelque chose de nouveau à partir de tout ça, c'est-à-dire qu'il fabrique quelque chose de neuf avec un ancien passé ou avec des anciens passés mélangés, avec des anciens espaces, avec des anciennes histoires, avec des contenus extrêmement divers et différents. Eh bien, vous aurez la production d'une histoire qui sera celle de votre rêve. C'est le lieu même, la présentation du symbole. C'est le travail du symbole. Tout ce qui a eu lieu aura été travaillé, malaxé, je dirais, par votre inconscient, pour produire ce rêve avec lequel vous aurez affaire quand vous aurez à le présenter, par exemple, à votre analyste. Tout ce travail sur le contenu réel, le contenu manifeste, la question condensation, déplacement, présentation, ça n'est jamais que l'occasion pour Freud de nous faire savoir que dans le rêve, ce qui pourrait vous donner l'impression d'être n'est pas, et que ce qui se trouve dans le rêve, c'est très précisément son obsession, évidemment, et on retrouvera le problème freudien qui est la question du complexe d'Édipe. Je vous lis un extrait de l'interprétation du rêve où il nous dit cette chose-là très clairement. Il nous dit « Lorsque je souligne auprès des patients la fréquence du rêve édipien, avoir un commerce sexué avec sa propre mère, j'obtiens comme réponse « Je ne puis me souvenir d'un tel rêve ». Aussitôt après, surgit pourtant le souvenir d'un autre rêve méconnaissable et indifférent qui s'est répété fréquemment chez l'intéressé, et l'analyse montre que c'est un rêve de même contenu, à savoir, une fois encore, un rêve édipien. Je puis assurer que les rêves camouflés de commerce sexuel avec la mère sont à beaucoup près plus fréquents que les rêves sincères. » C'est-à-dire qu'avec ce jeu qui vous permet d'opposer les contenus réels et les contenus manifestes. Et avec ce jeu, vous pouvez imaginer que dans un rêve où vous n'aurez ni père ni mère, eh bien, vous aurez une signification qui renverra au père et à la mère. Quel que soit votre rêve, le contenu du rêve étant celui-ci, le contenu manifeste étant celui-ci, c'est-à-dire n'importe quelle histoire, celle dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, eh bien, l'interprétation freudienne débouchera sur cette idée que ce rêve, comme beaucoup d'autres ou comme tous les autres, cache évidemment un problème édipien. Désir de coucher avec sa mère, désir de détruire son père. Donc, de fait, c'est pas bien compliqué quand vous faites savoir que, quel que soit le rêve, vous avez de toute façon la réponse, et que la réponse, c'est proprement l'obsession de Freud, vous voyez bien que la question d'interprétation du rêve, c'est la question de la projection de l'interprète, beaucoup plus que la question du décodage de l'inconscient à proprement parler. Je vais prendre un exemple pour vous faire voir comment fonctionne Freud, comment les obsessions de Freud fonctionnent sur l'analyse d'un rêve, et c'est un rêve qu'il nous donne dans l'interprétation du rêve. Le contenu manifeste du rêve est très simple, il nous dit c'est un jeune garçon de 14 ans qui a des tics compulsifs, vomissements hystériques, maux de tête, etc., dit-il, et qui évidemment n'est pas bien dans sa peau, donc Freud lui demande de fermer les yeux et de dire ce qui lui passe par la tête. On est dans la perspective proposée par Breuer dans les études sur l'hystérie. Souvenez-vous que je vous avais fait savoir qu'on pouvait remarquer que dès les études sur l'hystérie, il y avait un divan, et qu'on était dans la logique post-hypnotique, qu'on n'était pas loin des travaux de Freud sur l'hypnose, mais qu'on gardait cette technique-là. On essaie de demander aux patients d'être dans une situation de décontraction, fermer les yeux, et puis pratiquer l'association d'idées en disant « dites-nous ce qui vous passe par la tête ». Et à ce moment-là, l'enfant en question, 14 ans, le jeune homme, nous dit qu'il se voit en train de jouer aux dames avec son oncle. Il commente les coups possibles, là aussi, il commente les coups possibles et les coups interdits. Et il y a sur le damier, nous dit-il, un poignard, une faucille et une faux, tous objets possédés par le père. Et il lui vient également l'image d'un paysan fauchant son champ. Je vous donne son interprétation, c'est-à-dire le contenu latent du rêve à partir d'une citation, parce que je veux vraiment vous dire comment Freud considère ce rêve, analyse ce rêve, ou quelle proposition de lecture il vous fait. Il nous dit « La faucille est celle avec laquelle Zeus émascula son père. La faux est l'image du paysan, dépeigne Chronos, ce vieillard violent qui dévore ses enfants et dont Zeus tire vengeance d'une manière qui n'est guère celle d'un enfant. Le mariage du père fut une occasion de lui retourner les reproches et menaces que l'enfant avait autrefois entendu prononcer parce qu'il jouait avec ses organes génitaux. Parenthèse, le jeu de damier, les coups interdits, le poignard par lequel on peut oxyre. Ici, ce sont des souvenirs longtemps refoulés et leurs rejetons restés inconnus qui, par la voie détournée qui leur est offerte, se glissent comme des images apparemment dénuées de sens dans la conscience. » Voilà l'interprétation donnée par Freud du rêve, du moins de cette proposition faite par l'enfant, d'une espèce de rêve éveillé de ce jeune garçon de 14 ans, dont nous découvrons qu'il est quand même très au fait, qu'il serait quand même très au fait, très au parfum de la mythologie. Comment pourrait-on connaître ces détails mythologiques à l'âge de 14 ans ? Je veux bien qu'on apprenne des choses à l'école, qu'on soit très féru de mythologie à cette époque-là et qu'on apprenne le détail d'Ouranos le père, de Gaïa la mère, de Chronos le fils, la faucille fabriquée par la mère, enfin toutes choses qu'on découvre quand on a lu Homère et Hésiode, mais c'est tout de même étonnant d'imaginer que ce jeune garçon de 14 ans aurait pu avoir lu tout ça, alors que Freud, lui, l'a lu. Et on voit très précisément que l'interprétation est l'occasion pour Freud de ramener ses propres obsessions sur le rêve de ce jeune homme, qui peut, en même temps, j'en sais rien, peut-être que le jeune homme de 14 ans peut être au courant des histoires de Gaïa, de Chronos, d'Ouranos, etc., mais je crois que c'est plutôt l'obsession de Freud qui se trouve projetée sur cette aventure et que l'idée qu'on puisse avoir mal à la tête, des vomissements, des nausées, etc., et que ça ait à voir immanquablement avec le fait de la castration de son propre père, montre plutôt l'obsession de Freud que la vérité scientifique de la lecture de ce rêve, comme n'importe quel autre psychanalyste pourrait le faire ou la faire. Alors évidemment, vous avez une hypothèse possible, j'ai eu l'occasion de vous dire qu'il y avait ce que Freud appelait une phylogénèse, c'est-à-dire cette idée que nous aurions hérité, nos inconscients auraient hérité de manière génétique, ne donne pas le détail Freud, mais il nous le fait savoir, de scènes primitives, qui sont celles du banquet primitif, du meurtre du père, de la copulation de ses propres parents, enfin toutes choses qui, si on ne les a pas vues dans son propre par sa propre existence, nous dit Freud, sont tout de même en nous, puisque nous en avons hérité de manière phylogénétique. De sorte qu'on peut effectivement imaginer que la mythologie, dont il nous dit par ailleurs qu'elle nous aide à croire à la psychanalyse, évidemment, la mythologie, il nous dit que c'est l'histoire de l'inconscient, l'histoire des inconscients primitifs, qui s'est transmise, évidemment, oralement, et puis ensuite, sur le papier, quand on a commencé à écrire Homère, Hésiode, par exemple, ou Ovide un petit peu plus tard, mais il nous fait savoir que nous sommes dotés d'un inconscient qui dispose de la totalité de ces données mythologiques. À vous de voir. Il y a une autre technique intéressante, c'est-à-dire quand on met en perspective ces histoires d'interprétation du rêve, de condensation, déplacement, présentation, de contenu réel, contenu manifeste, vous avez un autre agencement conceptuel qui est extrêmement intéressant chez Freud, parce que pour le coup, il est vraiment l'occasion de vous dire que puisque l'inconscient est le royaume de l'illogique, alors allons-y très précisément, et ce qui importe n'est pas ce que vous dites, mais ce que l'analyste dit. C'est un tout petit texte qui s'appelle « La négation », petit texte de 1925, quelques pages seulement, sur lequel Lacan a beaucoup glosé, et on comprend pourquoi. Et il nous propose ce petit texte, la négation, ce que j'appelle le sophisme du pur contenu de l'idée incidente. C'est l'expression de Freud, et vous allez voir pourquoi. Le pur contenu de l'idée incidente. Freud nous dit, et c'est toujours à partir, nous dit-il, de son expérience clinique qu'il obtient ce genre de doctrine. La manière dont nos patients apportent au cours du travail analytique leurs idées incidentes nous donne l'occasion de quelques observations intéressantes. Vous demandez qui peut être cette personne dans le rêve ? Ma mère ? Ça n'est pas elle. Nous rectifions, deux points, donc, hein, c'est le donc de Freud, hein. Donc c'est sa mère. Nous nous octroyons, même chose, c'est intéressant, nous nous octroyons la liberté, lors de l'interprétation, de faire abstraction de la négation et d'extraire le pur contenu de l'idée incidente. Pour le dire autrement, cause toujours, moi j'ai l'intention que ce soit ta mère, tu ne veux pas que ce soit ta mère, pour moi c'est ta mère. Donc si vous dites, oui mais moi je n'ai pas l'impression que, alors Freud dit, ah non, ça veut dire oui. Et cette idée singulière que quand vous avez une affirmation, vous avez le droit de la transformer en négation, si vous avez une négation, vous avez le droit de la transformer en affirmation, alors de fait, c'est la possibilité de naviguer en pleine mer dans ce royaume de l'illogique et vous pouvez tout dire, tout faire dire à quelqu'un puisque de toute façon, ces dénégations ne compteront pour rien puisque vous avez la vérité scientifique. La négation, c'est une affirmation. L'affirmation, c'est une négation. Quand ça vous arrange, bien sûr. Parce que dans nombre d'autres textes, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais évidemment, quand vous avez besoin absolument de faire rentrer dans la case édipienne les aventures subjectives d'un individu, quel que soit le rêve, eh bien, vous avez bien besoin de cet argument qui consiste à dire que oui, c'est non. Puisque dans l'inconscient, le principe de non-contradiction n'existe pas. Ce qu'on peut concevoir, moi je peux concevoir que dans l'inconscient, le principe de non-contradiction n'existe pas, mais dans la démonstration, dans l'analyse, dans le développement, dans la pensée ou dans la réflexion, le principe de non-contradiction, ça existe. Une chose ne peut pas être une chose et son contraire en même temps. Si elle est une chose, elle n'est pas son contraire. C'est ça le principe de non-contradiction. Chez Freud, il n'y a pas de problème, puisque oui et non est EST, et que non c'est oui aussi, vous pouvez évidemment interpréter comme vous le souhaiterez, vous aurez toute latitude et toute liberté pour réactiver votre propre fantasme qui est le complexe d'Édipe. On va passer au milieu de cette séance à un autre moment et on va jouer sur les deux définitions de la psychanalyse. Parce qu'il y a deux psychanalyses, et je renvoie pour le coup à cette phrase extraite des 5 leçons de la psychanalyse. Freud nous dit « La psychanalyse est une nouvelle méthode d'investigation et de guérison ». Nouvelle méthode d'investigation et de guérison. Donc on a vu depuis le début de l'année en quoi elle était une méthode d'investigation. Là, on peut dire que c'est la psychanalyse. Et puis, on verra comment elle peut être une thérapie. Là, pour le coup, c'est une psychanalyse. Vous faites une psychanalyse chez un psychanalyste, mais il n'empêche qu'il existe la psychanalyse. La psychanalyse, on a globalement, il aurait fallu le double de temps pour rentrer dans le détail, mais globalement vu un peu comment elle fonctionnait, elle est l'occasion de la vision du monde freudienne, comme vous l'aurez vu, qui est une vision subjective et personnelle à prétention universelle. C'est l'occasion pour Freud de nous dire comment il comprend la vie animique, la vie de l'âme, la vie de la psyché. Il nous dit également que c'est l'occasion d'une théorie de l'étiologie des névroses. Vous savez comment ça marche chez Freud maintenant, hein, la compréhension de la vie animique, on peut en dire deux mots, c'est l'existence de l'inconscient. c'est cette idée qu'il y aurait des topiques pour dire l'inconscient, inconscient, préconscient, conscient, premier topic, deuxième topic, ça, moi, sur moi, et qu'à partir de ces topics, eh bien, on pourrait voir comment fonctionne l'inconscient. L'étiologie des névroses, eh bien, c'est cette hypothèse ou cette thèse que toute névrose procède d'un abus sexuel qui est recherché dans l'enfance ou d'une histoire édipienne. La psychanalyse renvoie également à la logique du rêve, on a vu un petit peu tout à l'heure, condensation, déplacement, présentation, etc. C'est également l'occasion de proposer une métapsychologie. Sur le principe de la métaphysique, Freud fabrique une métapsychologie. Il nous dit qu'il y a une psychologie, avant lui il existe une psychologie, et bien lui il est dans cette logique de l'au-delà de la psychologie puisqu'il invente cette psychanalyse. Et la psychanalyse, c'est l'occasion aussi de la fameuse psychopathologie de la vie quotidienne, le titre de l'ouvrage que vous savez, mais également l'occasion d'aborder la question des lapsus, des actes manqués, bien sûr des rêves, de l'oubli des noms propres, de un certain nombre de choses, enfin toutes les petites choses qui, dans la vie quotidienne, sont l'occasion pour Freud d'aller vers l'inconscient ou d'aller dans le sens de la découverte d'un inconscient. Une psychanalyse, c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est la même chose. Il s'agit de passer de l'investigation à la guérison, puisqu'il nous disait que c'était une méthode d'investigation. Et bien là, c'est une méthode de guérison, dont Freud nous dit qu'elle se propose d'éliminer les souffrances. Freud ne cessera de le dire, de l'écrire, de le faire savoir. La psychanalyse, ça soigne, ça guérit, ça fait disparaître les souffrances. On verra qu'il n'en est rien. Là, je vous renvoie au volume 10, à la page 36, où il le dit très précisément, ce que se propose la psychanalyse, une psychanalyse là, pour le coup, eh bien, c'est l'élimination des souffrances. On arrive donc au fameux divan. Dans l'histoire de la philosophie, vous pouvez associer la plupart du temps des philosophes à des objets, parce que de temps en temps, des objets résument la pensée d'un philosophe. Ça va vite, c'est peut-être l'occasion d'un malentendu, c'est la fameuse amphore de Diogène, ça peut être le poil de Descartes, ça peut être la tour de Montaigne, et c'est un peu rapide, mais en même temps, c'est assez bien fait, enfin, c'est une façon de procéder qui permet de ramasser la pensée de quelqu'un avec un objet, avec une situation, avec quelque chose qui le résume. Donc le divan, c'est Freud. Pour tout le monde, c'est Freud, y compris pour les gens qui ne savent pas trop ce qu'est la psychanalyse, Freud, le freudisme, ce genre de choses. Un psychanalyste, c'est un divan. Ça fait partie du fameux cérémonial, je mets le mot entre guillemets, c'est un mot que Freud utilise lui-même, du cérémonial qui est nécessaire à la thérapie. C'est un objet particulier, c'est un lit qui n'en est pas un. C'est une espèce de fauteuil anamorphosé en lit. C'est un boudoir avec des tapis. Vous avez vu probablement le divan de Freud sur Internet ou dans des livres avec des photos. On le voit régulièrement, ce fameux divan. Vous en avez deux. Il y en a un à Vienne et un autre à Londres. Mais c'est effectivement le dispositif a priori, de la psychanalyse. Vous avez quelqu'un derrière, on va voir pourquoi, derrière le divan, en retrait, qui est le psychanalyste. Il est assis et vous vous allongez dans cette position qui est tout à fait singulière puisqu'elle est une position dans laquelle vous devez pouvoir vous décontracter. Il ne s'agit pas de dormir, mais il s'agit de se décontracter pour parler librement à cet individu qui est censé vous écouter, qui ne dit rien, ou qui parle très peu, qui empoche une somme et qui vous fait à chaque fois, qui vous dit éventuellement à la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe sur ce divan ? Si vous ne deviez retenir qu'une phrase dans cette année, c'est la suivante. Elle est extraite d'un texte qui s'appelle « La question de l'analyse profane ». À la question donc, qu'est-ce qui se passe sur le divan ? Freud nous dit « Il ne se passe rien d'autre que ceci, il se parle ». Volume 18, page 9, pour les sceptiques, de l'œuvre complète. Donc la psychanalyse, c'est ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Deux individus qui se parlent, dont un qui se tait, si vous avez bien compris. Pas d'examen clinique, pas d'auscultation, pas de matériel médical, pas d'ordonnance, pas de médicaments. Si vous arrivez chez un psychanalyste pour vous faire soigner, il vous fait savoir que, quelle que soit votre pathologie, vous arrêtez les médicaments. Vous ne prenez pas de médicaments, pas de chimie. Il n'y a pas de tiers. Dans le cabinet du psychanalyste, de l'analyste. Il n'y a pas d'autres individus qui soient susceptibles d'écouter, d'entendre. Il n'y a pas de psychanalyste en formation qui soit susceptible d'être embusqué, ou pas embusqué, mais présent dans la salle pour écouter comment ça se passe ou pour écouter ce qui se passe. Vous êtes installé confortablement, décontracté, pas d'effort musculaire, pas de sollicitation sensuelle ou sensorielle. Il ne faut pas que vous ayez, vous entendiez éventuellement, je sais pas quoi, un bruit de feu de cheminée ou des parfums de cuisine ou ce genre de choses. Il faut que vous puissiez être tout à vous-même. Et lors de la première séance, le psychanalyste vous fait savoir que la méthode, c'est l'association libre. Donc vous parlez, vous dites tout ce que vous avez à dire, quelle que soit la chose à dire. Quelle que soit la forme, quelle que soit la syntaxe, quelle que soit, vous pouvez le dire n'importe comment, vous pouvez le dire dans des larmes, dans des cris, dans des pleurs, vous pouvez le faire savoir dans des silences, vous pouvez le faire savoir comme vous le voudrez, vous pouvez passer du coq à l'âne, vous pouvez tout dire et n'importe quoi, ça peut avoir un sens, pas de sens, comme vous voulez, mais association libre, parole libre, vous parlez. La proposition, c'est la suivante, dans la première séance, on donne la méthode, on explique comment ça se passe, pas de censure, pas de souci de la cohérence. On est là pour faire savoir pendant une séance, a priori c'était une heure, ça se passait à 50 chez certains aujourd'hui, minutes, chez certains aujourd'hui c'est 20 minutes, mais enfin bon, restons dans les logiques freudiennes, au départ c'était chez Freud une heure. Le personnage qui vous analyse est derrière vous, donc pourquoi derrière, pourquoi pas en face? On peut comprendre pourquoi on vous allonge sur un divan. Freud nous fait savoir qu'il faut être dans un état qui renvoie à un état infantile. On peut bien faire savoir qu'on infantilise les gens, c'est-à-dire vous les mettez dans une situation qui est censée les remettre dans la situation qui fut celle du traumatisme de leur enfance, de leur jeunesse ou de leur adolescence. Donc vous tâchez de remettre quelqu'un dans cette situation psychique qui fut la sienne, pour que vous puissiez faire remonter à la surface des choses qui vont être l'occasion d'un traitement. Et l'analyste, lui, est derrière vous, assis, et il n'est pas censé prendre de notes, il n'est pas censé... écrire quoi que ce soit. Si vous griffonnez quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez laisser croire que ce que vous griffonnez est important. Donc, comme vous avez dit quelque chose, vous dites que ce que vous avez dit est important et que peut-être ça va troubler votre flow, votre flux. Donc, a priori, il écoute, il ne note pas. Il note ensuite, quand vous êtes parti, éventuellement, il prend des notes importantes, nous dit Freud, des dates, des choses dont on ne peut pas forcément se souvenir. Il dit l'important, c'est de laisser parler et d'écouter. Pourquoi derrière et pourquoi pas en face et pourquoi pas dans une relation de face à face? Freud fait savoir que, alors il y a évidemment une position, une réponse théorique à cette aventure. Il nous dit que, et on peut le comprendre, qu'il n'est pas question que le patient puisse guetter ou l'analysé puisse guetter sur le visage de l'analyste des réactions qui pourraient lui laisser croire que ça a été important, pas important, que c'est étonnant, que c'est stupéfiant, que c'est... Il ne faut pas qu'il puisse donc interpréter les signes du visage ou du corps ou des postures du corps de l'analyste, et il faut qu'il y ait une espèce d'oreille bienveillante, mais sans le corps de l'analyste qui lui-même est en retrait. Il nous dit qu'il s'agit donc d'éviter la contamination des inconscients, et il nous fait savoir qu'en plus de ça, comme il fait 8 heures d'analyse par jour, il dit pendant 8 heures par jour, je n'ai pas besoin de voir les gens ou de regarder comme ça les gens ou d'être regardé par des gens pendant 8 heures. Et puis, il y a une information plus intéressante. Alors, pour le coup, elle est moins technique, elle est moins théorique, vous verrez. Et on la trouve dans les fameuses lettres à Fliss. Une lettre du 15 mars 1898, Freud écrit, de point ouvrir les guillemets, « Je dors pendant les analyses l'après-midi ». Vous pouvez aussi retenir cette deuxième phrase. Ellen Deutsch, qui elle-même a été psychanalyste, donc a été psychanalysée, je vais vous dire pourquoi et comment tout à l'heure, fait savoir qu'effectivement, elle a constaté que Freud avait dormi pendant ses propres analyses. Est-ce que c'est grave, docteur, de s'endormir pendant l'analyse? Vous verrez, en fonction du prix, on peut considérer que c'est un peu grave quand même. Mais Freud considère que ce n'est pas grave de s'endormir. Ce n'est pas grave du tout, parce que quand il dort, il se sert de son inconscient comme d'un instrument. C'est une citation. Hein. Conseil au médecin sur le traitement analytique, page 67. Lorsque l'analyste dort, il se sert, ouvrez les guillemets, c'est une citation, c'est Freud qui parle, il se sert de son propre inconscient comme d'un instrument. Donc vous pouvez dormir, l'inconscient ça marche quand même. Alors il ne vous dit pas comment, il ne vous fait pas savoir comment vous pouvez vous souvenir de ce qui aura été dit alors que vous êtes en train de dormir et que quelqu'un vous parle. Donc évidemment, là on est en pleine pensée magique. On est vraiment dans la pensée magique, c'est-à-dire que le psychanalyste est quelqu'un qui peut écouter en dormant. Et comprendre l'essentiel, puisque de toute façon, ce sont les inconscients qui communiquent. Le psychanalyste n'a pas de plan, il ne part pas a priori en se disant « je dois découvrir ceci ou je dois découvrir cela ». Il n'a pas besoin de se concentrer non plus rigoureusement sur la parole, dit Freud. Donc on n'écoute pas forcément ce qui est dit. Ce n'est pas forcément important. Parfois, nous dit Freud, ce qui est important, c'est la façon dont la chose est dite. Et l'inconscient du psychanalyste, lui, sentira, ressentira des choses peut-être qui passeront par l'inflexion de la voix plutôt que par la chose qui sera racontée. Peut-être qu'un silence sera plus important qu'une longue démonstration ou une longue narration d'un traumatisme d'enfance. Et il y a, comme toujours chez Freud, puisque je vous fais savoir dès le début de l'année que mon hypothèse, ma thèse, était que la théorie procédait toujours d'une biographie, d'une autobiographie, eh bien, comme vous devez pouvoir justifier qu'on peut dormir pendant 8 heures, parce que quand même tout le monde dort au boulot, il n'y a pas de raison que les psychanalystes ne dorment pas au boulot non plus, eh bien, il développe un concept qui est celui d'attention flottante. Attention flottante. C'est-à-dire que ce qui se passe quand vous êtes en train de vous faire psychanalyser, 450 euros la séance à l'époque de Freud tout de même, c'est ce qui s'appelle une écoute distraite qui vous permet de vous polariser sur rien du tout, mais sur les choses qui passent, sur les choses qui vont et viennent. Alors évidemment, les trisotins d'aujourd'hui n'aiment pas beaucoup qu'on renvoie, les psychanalystes non plus, parce qu'on démonte un peu la cabane, qu'on renvoie à ce concept, à ce fameux concept d'attention flottante, et alors on a des démonstrations de scolastique extraordinaires pour nous faire savoir que l'attention flottante n'est pas l'attention flottante, bien sûr, mais traduit un mot allemand qu'il faut traduire par attention égale. Le problème n'est pas dans la possibilité de pinailler sur la traduction d'un mot allemand, mais sur le fait que le concept lui-même nous dise très précisément qu'on peut dormir quand on est analyste dans une analyse, puisque l'essentiel, ce sont les communications des inconscients, et que, Freud nous le fait savoir, on est dans le royaume de l'illogique, donc pas besoin de compter sur la langue, le langage à proprement parler, mais tout ce qui n'est pas langage peut être l'occasion d'apprendre des choses pour le psychanalyste. Donc pendant 8 heures, dans une journée, le psychanalyste laisse faire ce qu'il appelle sa mémoire inconsciente. Donc il y a une mémoire inconsciente. De fait, quand vous avez une mémoire inconsciente, pas besoin de prendre des notes. De toute façon, votre inconscient veille. Il est là, il note et il a tout pris. Donc vous avez un rituel, le divan, vous êtes allongé, lui est derrière vous, il peut dormir, et il vous a fait savoir comment ça fonctionnait, et évidemment vous devez être dans une position de maîtrise. Et la maîtrise, elle commence à partir du moment où vous faites savoir que tel individu aura un jour, une heure, que ce sera son jour et son heure, et qu'il viendra régulièrement, deux fois, trois fois par semaine. Freud nous fait savoir qu'une bonne analyse, c'est une séance tous les jours, sauf le dimanche et les fêtes, et sauf les vacances. Ça fait quand même 450 euros lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, multiplié par 25 jours, multiplié par 11 mois, enfin faites le total, je vous le ferai la fois prochaine en euros. Et vous voyez effectivement que la théorie a intérêt à vous faire savoir effectivement que vous pouvez, qu'il faut venir tous les jours. Mais Freud dit que ça peut ne pas être tous les jours, ça dépend du degré de gravité. Donc vous pouvez venir une fois ou deux fois par semaine, mais c'est l'heure et le jour. Et si vous ne pouvez pas venir, la somme est due en entier quand même. C'est-à-dire que vous avez le droit de louper. Mais si vous loupez, c'est votre inconscient qui vous fait louper. Donc votre loupage fait partie de l'analyse, moyennant quoi, il faut quand même payer le loupage. Et la fois suivante, vous payez deux fois pour le prix d'une. Quoi. C'est deux pour le prix d'une, là, pour le coup. Toute séance honorée et non honorée est due en entier. Quand est-ce que ça se termine? Évidemment, Freud ne peut pas interdire le fait que quelqu'un en ait assez et puisse partir. Donc évidemment, il dit si l'analyste en a marre, si l'analysé en a marre aussi, eh bien ça se termine, quoi, de bon gré, et puis voilà, on s'en va chacun dans son coin. De temps en temps, l'analyste peut considérer effectivement que ça ne marchera pas, et peut mettre fin à une analyse en faisant savoir que ça ne marchera pas, et puis peut conseiller éventuellement quelqu'un d'autre. Il y a des histoires de transfert, de contre-transfert qui font effectivement que parfois ça peut être problématique pour un analyste. Mais en temps normal, c'est l'analyste qui fait savoir quand c'est terminé. Quand on en est au texte, quand on reste au texte de la technique psychanalytique, qui est ce titre générique qui n'est pas de Freud, mais de l'éditeur et qui regroupe l'ensemble des textes concernant justement la technique psychanalytique, Freud nous fait savoir qu'en théorie, l'analyse dure de 6 mois à 3 ans. Ça se trouve dans la méthode psychanalytique de Freud, 6 mois à 3 ans. Je vous rappelle que l'homme au loup, lui, aura été analysé pendant plus d'un demi-siècle. Qui peut être analysé? Alors, ça, c'est intéressant aussi parce qu'on ne le dit jamais. Freud a fait savoir que ça ne marchait pas pour tout le monde, la psychanalyse. Il nous dit que c'est déconseillé pour les personnages confus. Ça fait du monde. Les dépressifs mélancoliques, ça en fait encore plus. On se demande s'il en reste un peu. Des gens dont la constitution est dégénérée. Des patients dépourvus de sens moral. Des patients sans intelligence. Des individus qui ont passé la cinquantaine. Pour moi, ça va, c'est réglé. Il n'y a pas d'âge minimum, en revanche. Les personnes qui sont conduites là par un tiers et qui ne sont pas venues de leur propre fait. Et puis les anorexiques hystériques. Ça fait du monde. Donc avec tous ces gens-là, ce n'est pas la peine d'essayer. Donc si un personnage confus, dépressif mélancolique, constitution dégénérée, enfin, vous voyez quoi, hein, ça fait du monde. Dans un petit texte qui s'appelle « L'intérêt que présente la psychanalyse », Freud nous dit « Dans les formes les plus graves des troubles mentaux proprement dit, la psychanalyse n'arrive à rien sur le plan thérapeutique. » Ça, c'est clair. Ce qui fait que certains ont fait savoir que la psychanalyse soignait vraiment les gens bien portants, mais personne d'autre, et ce n'est pas forcément une boutade. À qui est-ce que c'est conseillé, la psychanalyse ? Petit texte qui s'appelle « De la psychothérapie ». Freud nous dit, ouvrez les guillemets, « Il nous est agréable de constater que c'est justement aux personnes de plus grande valeur, aux personnes les plus évoluées, que la psychanalyse peut le plus efficacement venir en aide. » Il ajoute « Dans le cas où une psychothérapie analytique n'apporte qu'un faible secours, toute autre méthode aurait à coup sûr échoué totalement. » Donc comme ça c'est clair, la psychanalyse ne soigne pas tout, mais ce qu'elle ne soigne pas, les autres ne le guérissent pas non plus, et lui, de toute façon, il obtient plus qu'avec les autres méthodes. Et puis il y a quelque chose d'important aussi, et on reviendra à ça parce qu'on abordera la question malheureusement de Freud et de la politique, la psychanalyse est déconseillée aux pauvres. Il nous dit, alors vous voyez, quand vous avez supprimé tout ça, il reste quelques bourgeoises, quelques comtesses, quelques gens argentés à Vienne qui peuvent venir et qui peuvent payer le prix, mais les salauds de pauvres, c'est trop coûteux pour eux. Et il nous dit, les pauvres sont contraints à gagner leur vie et ils ont le moins le temps de se réfugier dans la névrose. De fait, 45 heures par semaine, vous n'avez pas le temps d'avoir des problèmes de psyché. Alors, le début du traitement nous dit, citation, je ne voudrais pas que vous puissiez penser que je suis méchant avec Freud, il nous donne lui-même les moyens de penser ce qu'on doit penser sur lui. Deux points, ouvrez les guillemets, le névrosé pauvre ne peut que très difficilement se débarrasser de sa névrose. Ne lui rend-elle pas, en effet, dans la lutte pour la vie, de signaler service ? Le profit secondaire qu'il en tire est très considérable. La pitié que les hommes refusaient à sa misère matérielle, il la revendique maintenant au nom de sa névrose et se libère de l'obligation de lutter par le travail contre sa pauvreté. Pas mal, hein ? C'est-à-dire qu'en gros, il est pauvre et il est névrosé, et en plus de ça, la névrose lui permet plus facilement de supporter sa pauvreté et sa misère. Je dois dire qu'au début de cet article, Freud avait commencé en disant, en précisant ceci, hein, deux points ouvrés les guillemets, « tout en étant fort éloigné de tenir ascétiquement l'argent pour méprisable ». Ça veut dire qu'il aime bien l'argent, mais pour le dire comme ça, il dit, tout en étant fort éloigné de tenir ascétiquement l'argent pour méprisable, virgule, et puis il continue sa théorie, et on a déjà eu l'occasion de voir qu'effectivement, il y a une théorie de l'argent dans cette aventure. L'argent, ce sont les matières fécales, et ça doit vous coûter. Ça doit vous, il faut la payer, l'analyse. Et plus ça coûte, mieux ça soigne, nous dit-il. De fait, plus ça coûte cher, plus ça peut régler des problèmes personnels, de budget familial, mais lui nous dit que non, d'un point de vue de la thérapie, c'est au contraire le signe que ça va bien soigner, bien guérir. Donc les gens qui n'ont pas les moyens de payer, ben, ce n'est pas utile qu'ils viennent du côté de la psychanalyse. Donc il faut écarter les pauvres et les gens trop mal portants, préférer les intellectuels, les riches et les gens bien portants, alors, nous dit-il, le succès est envisageable. Comment ça marche, le succès ? C'est quand ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a du succès ? Alors, il nous le dit, dans les leçons d'introduction à la psychanalyse, il faut la confiance, la patience, la docilité, la persévérance. Il faut y croire, quoi, si vous voulez, et pour que ça marche. Pour guérir, le patient doit croire que le thérapeute peut le guérir et le guérira. On est dans la logique de la pensée magique. Si vous pensez que le guérisseur guérit, alors il guérit. Et Freud nous le dit très précisément. Il nous dit que l'analyste doit en imposer à son patient. Dans « Les chances de l'avenir de la thérapie psychanalytique », petit texte, là encore, mais comme on ne lit jamais les petits textes et qu'on se contente de quelques textes qui ont été fabriqués par les turiféraires, eh bien on passe à côté de ce genre de pépites. Il dit, deux points, ouvrez les guillemets, « Nos chances thérapeutiques augmentent quand la confiance générale se tourne vers nous ». Et il explique que quand il a démarré, qu'il était dans un petit quartier pas bien reluisant à Vienne et qu'il n'y avait pas, de choses extravagantes, il n'y avait pas de tableau de maître dans la maison, eh bien les patients arrivaient chez lui, voyaient la modestie de son intérieur, le peu de renom qui était le sien, Freud à l'époque, ses manques de titres universitaires, il disait, eh bien à l'époque, il doutait de mon pouvoir, dit Freud, et c'est plus tard, quand effectivement il est devenu célèbre, qu'il a guéri de plus en plus et de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'un bon analyste ? Parce qu'on n'est jamais très sûr de ne pas tomber sur un mauvais ou d'être en présence d'un charlatan. Il répond à ça. Dans la question d'analyse profane, autre petit texte, il nous dit « Le névrosé se met au travail parce qu'il accorde la croyance à l'analyste. » Parce qu'il accorde la croyance à l'analyste. Et quand vous cherchez les qualités du bon psychanalyste, vous trouvez des choses qui renvoient à un aspect presque animal. Évidemment, on n'est pas dans la raison raisonnable et raisonnante, on n'est pas dans le discours logique, il nous le dit lui-même, on est dans le royaume de l'illogique. Donc il renvoie au facteur personnel. Il renvoie à une qualité particulière qui suppose, citation, une certaine finesse d'oreille. Il nous dit également que les individus qui sont bons, ce sont des gens qu'on ressent comme bons. Et il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de statistique possible, il n'y a pas de possibilité, bien sûr, de se faire inspecter sur ce terrain-là par quelqu'un qui dirait « en voilà un bon, en voilà un mauvais, en voilà un très mauvais » ou « voilà un charlatan ». Freud refuse absolument ça. Et tous les freudiens aujourd'hui, et tous les psychanalystes aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler, il y a eu un rapport de l'Inserm qui faisait la démonstration que la psychanalyse arrivait en queue de peloton dans les succès thérapeutiques et que les thérapies comportementales cognitives arrivaient en tête. Je ne suis pas un défenseur acharné des TCC, mais enfin, simplement, il y a un rapport de l'Inserm qui fait la démonstration que ça se passe comme ça. Et ça a été un délire du côté des psychanalystes qui faisait savoir qu'il n'est pas question qu'on les évalue. Ils ne veulent pas d'évaluation, ils ne veulent pas être évalués. Il suffit de croire. Dit Freud. Pas besoin d'avoir des diplômes dans cette aventure, puisque un bon psychanalyste, c'est quelqu'un qui a été psychanalysé. C'est comme ça que ça se fait, nous dit Freud. On ne fait pas des études de psychanalyse, on n'apprend pas les concepts de la psychanalyse, on ne travaille pas sur les discours de la psychanalyse, on s'allonge soi-même. Et quand on s'est suffisamment allongé, on peut, à son tour, aller s'asseoir pour dormir derrière sur le fauteuil. Et cette fois-ci, on ne donne plus de l'argent, mais on récupère de l'argent sous prétexte qu'on a passé 2 ans, nous dit-il, Freud, 2 ans de ce qu'il appelle une analyse didactique, de ce qui se trouvera appelé par quelques-uns des siens avec son consentement, une analyse didactique, c'est-à-dire une analyse qui vous permet d'en savoir sur vous-même, d'en apprendre sur vous-même. Il s'agit que vous puissiez connaître le fonctionnement de votre psyché pour éviter justement, théoriquement, la projection de vos propres fantasmes. Il s'agit de soigner et de guérir. Il ne s'agit pas, théoriquement, nous dit Freud, de projeter ses propres fantasmes, et on sait ce que sont nos propres fantasmes quand on aura fait une psychanalyse. Ceci dit, moi je peux vous le dire, hein, c'est pas la peine de dépenser autant d'argent et de passer autant de temps. Vos fantasmes, c'est coucher avec votre mère et tuer votre père. Donc c'est pas utile d'aller chercher pendant 5 ou 10 ans le détail des mystères de ces choses-là, puisqu'au bout du compte, c'est ça que vous allez découvrir. Vous serez masturbé un jour, ça ne vous est arrivé déjà, ça vous arrivera un jour, vous verrez. Vous avez ressenti de la culpabilité, vous avez eu peur de la castration, et ce qui vous angoisse, c'est effectivement la crainte de la castration parce que vous vous êtes touché le zizi un jour. Bon, au bout du compte, on obtient ce genre de conclusion in fine après avoir fait un long détour, puisque de toute façon, c'est toujours ce qu'on découvre dans cette aventure. En fait, l'analyste est analysé par un analyste ayant été analysé, et voilà comment les choses se passent. C'est-à-dire, on est dans la logique incestueuse. Freud est leur père à tous, c'est-à-dire que le premier des psychanalystes, c'est Freud. Il ne peut pas se faire psychanalyser, et pour cause, puisqu'il invente la chose, nous dit-il. Donc il fait une auto-analyse, cause incausée, premier moteur immobile, aurait dit Aristote. Il s'analyse lui-même, puis il analyse des gens qui pourront analyser. Un bon psychanalyste, c'est quelqu'un qui a été psychanalysé, nous dit Freud. Tous les 5 ans, théoriquement, il doit revenir se faire former à nouveau. Et aujourd'hui, on parle des analyses de contrôle, c'est-à-dire que vous êtes psychanalyste, mais en même temps, vous gardez votre analyste et vous lui faites part de votre propre travail et vous êtes censé avancer sur ce terrain-là. Quand est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir affaire à un charlatan ? La question est abordée précisément puisque Theodor Reich a été convoqué, un psychanalyste lui aussi, a été convoqué en 1924 pour charlatanisme, accusé par un autre psychanalyste, William Stekel. Et Freud a écrit un petit texte dans la presse qui s'appelle « Le docteur Reich et le bousillage de la cure », même chose, très peu lu, où il défend la pratique par des non-médecins, la pratique de la psychanalyse par des non-médecins. Il considère qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour psychanalyser et que d'ailleurs, quand on est médecin, on est un moins bon psychanalyste. Et il vaut mieux venir de n'importe quelle autre sphère que de la sphère médicale ou scientifique. C'est ce qu'il appelle l'analyse profane, Freud. L'analyse profane, c'est l'analyse qui est menée par un non-médecin. Et lui considère qu'il vaut mieux ne pas être médecin, et pour cause, il a une fille qui est institutrice de formation et qui est elle-même devenue psychanalyste. Il défend le pouvoir des mots, nous explique que dans la psychanalyse, je vous rappelle ce texte, il ne se passe rien d'autre que ceci, il se parle, et il défend cette idée en nous disant « dans la psychanalyse, il n'y a que ça, c'est la parole ». et il nous parle de l'enchantement du mot, du verbe. Citation, après tout, le mot à l'origine était un enchantement, une action magique, et il a conservé encore beaucoup de son ancienne force. Donc la chose est clairement dite, échange verbal égale action magique, et de fait, on soigne par la parole. Une parole qui est très déséquilibrée, puisque quand vous êtes allongé, vous êtes censé parler, et quand vous êtes derrière, eh bien, vous êtes censé écouter. C'est-à-dire que théoriquement, vous parlez peu, très peu, de sorte que c'est le Saint-Jean Chrysostome, c'est-à-dire Saint-Jean à la bouche d'or, c'est-à-dire que moins vous parlez, plus quand vous parlez, vous donnez l'impression de sortir des oracles de votre bouche, et vous dites « il a parlé ». Il est capable de parler, il m'a dit telle phrase, et d'un seul coup, on rentre chez soi en se disant, elle m'a coûté cher cette phrase, donc on a l'impression qu'elle est un sésame, et qu'on travaille sur cette phrase en se disant, ça doit être une clé magique, je n'arrive pas trop forcément à voir, mais immanquablement, puisqu'on est dans le royaume de l'illogique, immanquablement, cette phrase va finir par produire des effets. Donc le psychanalyste, théoriquement, ne donne pas de conseils existentiels, il ne vous dit pas, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut vous comporter comme ceci, plaquer votre femme, égorger vos enfants, changer de boulot. Il est censé laisser chacun décider de son propre destin. On peut, même en lisant la biographie d'Ernest Jones, constater que Freud n'a jamais pratiqué comme ça et qu'il a beaucoup conseillé, qu'il a beaucoup fait savoir à des gens qu'il fallait faire ceci plutôt que cela. Par exemple, sa fille étant devenue lesbienne avec Dorothy Burlingame, il fait savoir à Dorothy Burlingame que ce qui serait bien, c'est qu'elle quitte son mari. Elle quitte son mari et le mari se suicide. Mais les conseils ont été assez fréquents, assez récurrents dans l'analyse freudienne. Le charlatan, nous dit Freud, n'est pas celui qui n'a pas de diplôme, mais, ouvrez les guillemets, celui qui entreprend un traitement sans posséder la connaissance et les capacités requises. Donc le problème, ce n'est pas le diplôme, le problème, c'est l'adoubement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme de psychanalyste. Si un psychanalyste dit que vous pouvez analyser, alors vous pouvez analyser. On ne peut pas mieux faire comme type de transmission incestueuse que de faire savoir que l'analyste dit à son analysé qu'il peut devenir lui aussi un analyste qui pourra analyser, etc. Donc la transmission, elle se fait sur le mode quasiment chevaleresque. Les médecins, nous dit Freud, fournissent aux charlatans le plus fort contingent. Donc l'affaire est réglée. Et quand vous êtes diplômé, quand vous avez fait des études, quand vous êtes scientifique, quand vous êtes médecin, eh bien vous êtes plus susceptible d'être charlatan que si vous êtes institutrice comme Anna Freud et psychanalysée par le père lui-même. Donc vous voyez comment cette magie suppose effectivement que magicien, vous le soyez devenu par un magicien qui vous aura conféré les pouvoirs qui étaient le sien. Est-ce que la guérison est importante ? Freud fait savoir que non. Et c'est ça qui est intéressant. Il nous fait savoir que l'essentiel de la psychanalyse, c'est de faire avancer la cause. Ce n'est pas forcément de guérir. Il nous dit que la souffrance, ce n'est pas trop son problème, qu'elle ne doit pas disparaître trop rapidement. De fait, vous pourriez quitter le divan et votre banquier s'en apercevrait. Il considère qu'un succès trop rapide risquerait de détruire les symptômes et que vous pourriez être obligé de revenir quelque temps plus tard avec des problèmes plus graves et plus importants. Donc il faut que ça dure longtemps. Et il y a une haine incroyable, une haine sidérante chez Freud à l'endroit des Américains qui sont gens pragmatiques et utilitaristes au bon sens du terme et qui eux considèrent, même s'ils aiment l'argent et qu'ils le disent, considèrent qu'une analyse ça doit rapidement déboucher, ça doit soigner rapidement, ça doit guérir vite les gens. Et Freud fait savoir que ce jeune continent, enfin ce nouveau monde, n'a pas grand-chose à voir avec le vieux continent européen qui, lui, sait ce qu'est véritablement la psychanalyse. Et il s'opposera évidemment à toutes les psychanalyses de type américain qui sont plus rapides, plus efficaces, qui produisent plus rapidement des effets et qui ne rabattent pas tous sur le problème du complexe d'Édipe. Je conclue la séance d'aujourd'hui avec la lecture de cette phrase des leçons d'introduction à la psychanalyse pour vous montrer que Freud n'a pas grand souci d'autrui, n'a pas grand souci des souffrances d'autrui, n'a pas grand souci de guérir, n'a pas grand souci de la thérapie, n'a pas grand souci d'alléger la souffrance des gens. Il nous dit « Nous avons le droit, et même le devoir, de pratiquer la recherche sans prendre en considération un effet utile immédiat. À la fin, nous ne savons ni où ni quand, cette petite parcelle de savoir se transposera en pouvoir, et même en pouvoir thérapeutique. » Si la psychanalyse, dans toutes les autres formes d'affection nerveuse et psychique, présentait aussi peu de succès que dans les idées délirantes, elle resterait quand même un moyen irremplaçable de recherche scientifique. Voilà pour aujourd'hui. Donc, la négation, par exemple, vous trouvez ça dans l'œuvre complète au tome 17, Et le docteur Reich et le bousillage de la cure, même chose, c'est dans les volumes de l'œuvre complète. Par ailleurs, vous avez l'abrégé de psychanalyse, qui lui est le petit texte dont je vous parlais tout à l'heure et qui est la synthèse que Freud effectue à la fin de son existence. Mais l'abrégé de psychanalyse fait vraiment la synthèse de la totalité de son travail. Un autre livre, et ça pour le coup, tout ce que je vous ai dit ce soir procède de ma lecture de La technique psychanalytique. C'est un recueil de textes effectué par les presses universitaires de France. Et le titre n'est pas de Freud, mais il ramasse cet ouvrage, tous les textes dans lesquels Freud s'est exprimé sur la technique psychanalytique. Ça, c'est très bien fait, très lisible, très compréhensible, très facile d'accès, la technique psychanalytique. Je renvoie également au livre d'Ernest Jones, dont vous savez, puisqu'on en parle à chaque séance, qu'il est le biographe de Freud. Jones était lui aussi psychanalyste. Il a été président de l'Association internationale de psychanalyse et de la Société britannique de psychanalyse. Ça a été le psychanalyste britannique et il a écrit « Théorie et pratique de la psychanalyse » chez Payot. C'est un ouvrage bien fait de synthèse aussi. Des choses plus légères, plus faciles, mais bien faites, de Lydia Flem, une biographie qui s'appelle « L'homme Freud », une biographie intellectuelle, point seuil, et de la même Lydia Flem, « La vie quotidienne de Freud et de ses patients ». C'est honnête, simplement, on est dans la légende, hein. Il ne faut pas attendre autre chose, mais c'est un travail bien fait. Et puis ce très gros travail de Paul-Laurent Hassoun, dictionnaire des œuvres psychanalytiques, qui recense de manière très austère la totalité du travail de Freud, mais aussi d'autres psychanalystes, Stekel, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, Mélanie Klein, il y a également Lacan et quelques autres, tous les psychanalystes, Maud Manoni, s'y retrouvent avec leurs ouvrages essentiels. C'est un ouvrage de travail, mais dans lequel, étonnamment, on ne rencontre rien sur... Mais j'ai vraiment cherché partout, parce qu'avec les histoires de nouvelles traductions, on peut parfois se laisser prendre, mais j'ai cherché vainement un renvoi à la négation, qui est pourtant un texte fameux, ce fameux texte dans lequel Freud nous fait savoir que oui, c'est non. Et puis d'autres textes qui sont des textes un peu problématiques, évidemment, pour la légende, et qui, comme par hasard, ne se retrouvent pas chez Paul-Laurent Hassoun. Enfin, ceci dit, ça reste un ouvrage important, qui vient de paraître récemment. Voilà pour la bibliographie.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur au Centre dramatique national de Normandie, Philippe Petit. Prise de son, Patrick Chanteclair, France Bleu Basse-Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa. Demain, les questions des auditeurs du CDN de Normandie à Michel Onfray.